ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme la radio.
Bonsoir, bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Entre Femmes, Radio Zone. Au programme ce soir, eh bien, tout de suite, nos nouvelles, suivies de Canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune et les rendez-vous de Marjolaine. À 21h, une interview sur le réseau des femmes vivant sous loi musulmane avec Marie-Aimée Elie Lucas, la responsable de ce réseau. Et eh bien, tout de suite, nos nouvelles. Mais avant, je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023, depuis Genève, 033 depuis Bloom Pits. Et puis notre adresse, Ondes Femmes sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles, les titres du journal, harcèlement sexuel à Genève, l'affaire qui secoue l'État, une interview avec une des plaignantes. Toujours à Genève, un nouveau parti, Solidarité, quelle place laissera-t-il aux femmes ? En ex-Yougoslavie, le viol est l'arme de guerre dans la guerre civile. Aux États-Unis, la victoire de Bush signifiera-t-il une avancée de la cause des femmes ? Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles. À Genève, le mardi, le comité contre le harcèlement sexuel, suivi par le syndicat interprofessionnel des travailleurs et travailleuses, le CIT, et le syndicat de la fonction publique, la VPOD, ont organisé une petite manifestation sur la place de la Fusterie pour appuyer les 4 femmes qui ont porté plainte contre le médecin chef de service qui les avait harcelées sexuellement. Une pétition pouvait être signée qui demandait au conseil d'État de faire diligence dans cette affaire. Une des plaignantes témoigne.
En tant que plaignante, j'ai effectivement vécu une confrontation qui était assez pénible. Ça fait à peu près 3 semaines, un mois, c'était le 2 octobre, dans le 8. Et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que j'ai pris, disons, en compte, dans le sens où j'ai l'impression que c'est vraiment une couverture. Je crois que le Conseil d'État a fait une faveur, c'est-à-dire qu'on allait prolonger l'enquête parce que quelque part il fallait aussi. Je pense qu'il n'y avait peut-être pas assez d'éléments, ou s'ils estimaient qu'il y en avait assez, comme il y avait une demande de notre part qui était quand même d'aller un peu plus loin ou d'élaborer, je crois que ils ont fait une décision de confrontation. Le juge qui a été mandaté pour faire cette confrontation est un juge à la retraite. C'est tout à fait, louable pour lui, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas du tout dans l'affaire et qu'il n'avait pas l'air de prendre la chose très, très au sérieux, je dirais. Il a été un peu à côté de la plaque, à mon avis, surtout pendant ma confrontation, où je l'ai ressenti à un moment donné très vituperant sur ce comité du harcèlement sexuel qui finalement fait beaucoup de bruit autour de pas grand-chose, et que par ailleurs, une femme en mini-jupe et puis avec une poitrine provocante qui rentre dans le bureau du chef de service, ça paraît tout à fait normal qu'il craque. N'importe quel homme normal pourrait craquer. Alors c'est vrai que quand je l'ai vu réagir comme ça, je me suis dit, pour moi c'était peine perdue. Je me suis dit, on va pas avoir gain de cause avec un juge qui est censé avoir une attitude relativement neutre et objective. on va pas obtenir grand-chose. Il va entériner, je dirais, les dépositions qui ont été faites ultérieurement. Le dossier, semble-t-il, était assez complet. Donc je crois qu'il avait juste un petit préavis à donner. Puis quand il a répondu comme ça, pour moi, c'était clair. Il n'allait pas apporter grand-chose au témoignage. Alors bon, pour moi, c'est un peu caduque, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va évoluer. J'ai de la peine à attendre de plus de l'enquête administrative en tant que telle.
Mais entre-temps, j'ai cru savoir que d'autres témoignages étaient arrivés, entre autres de femmes qui avaient été, qui avaient eu une visite médicale avec cette personne.
Alors ça, c'est l'élément nouveau depuis l'enquête administrative, depuis l'émission qui avait passé, donc, entre autres à la télévision Téléjournal, où le médecin-chef en question avait été donc interviewé. Et là, des femmes l'ont reconnu. Et l'ont reconnu parce que dans la voix, ils reconnaissaient le médecin qui les avait auscultés. Et vu le problème et la problématique qui était en question, bon, elles se sont rappelées, elles, ce qu'elles avaient vécu. Alors c'est vrai que la plupart datent d'une dizaine d'années. Et je crois que ça s'est fait après, par la suite, beaucoup par bouche à oreille. Et beaucoup de femmes, comme ça, par conversation, se sont rendues compte qu'elles avaient affaire au même homme, quoi. Et elles se sont manifestées en disant « Moi, j'ai vécu la même chose. L'auscultation a été très bizarre. J'ai été extrêmement mal à l'aise. Il m'a fait mettre en slip et soutien-gorge alors que c'était une consultation d'ordre formel, comme ça, pour pouvoir simplement donner un préavis alors que le médecin traitant avait déjà fait une consultation médicale et tout. Et que, bon, l'attitude du médecin en question a été très ambivalente et enfin ambigu pour le moins, puisqu'il avait une attitude où tu étais très proche de la personne, s'est même frotté contre certaines avec le sexe en érection, et puis a eu certains propos aussi déplacés, et a tenté certains attouchements pour certaines, quoi. Alors elles se sont manifestées au nombre, je dirais bien, d'une bonne dizaine. Sur la bonne dizaine, il y en a deux qui sont d'accord de témoigner. Une qui, comme toutes les autres, estime que c'est un gros risque parce qu'elle tient à sa place de travail, et ce que je respecte tout à fait. Donc c'est vrai qu'en même temps, j'ai envie de dire, l'élément essentiel, c'est de leur dire ce qu'il faudrait, c'est que les femmes osent parler, osent témoigner. Et puis en même temps, on peut tout à fait comprendre qu'elles aient des restrictions et des peurs, et que c'est bien contre ça qu'on essaye de lutter, c'est justement de dépasser le silence et la peur de révéler quelque chose qui, effectivement, risque de donner des représailles, mais que plus on est, puisqu'a priori il faut du nombre, plus on est, plus on arrive peut-être à obtenir gain de cause, entre guillemets, et à faire basculer la balance de l'autre côté, c'est-à-dire à admettre que cet homme n'est pas à sa place là où il est et qu'il abuse de son pouvoir et de sa fonction.
Alors, pour l'instant, vous travaillez encore dans son service, toutes les quatre. Qu'est-ce que ça veut dire de continuer à travailler dans cet entourage?
C'est horrible. C'est un vrai sarcophage. C'est une espèce d'ambiance morte, à la fois mêlée de crainte, de regards méprisants, et puis en même temps de peur, disons, de perdre sa place, de peur de justement cette espèce de tabou qui a été relevé, parce qu'à mon avis, si certaines n'ont pas été directement touchées dans les attitudes du médecin en question, certains sont tout à fait au courant de ce qui se passait, et depuis des années couvrent, à mon avis, cette histoire. Parce que c'est pas possible que tout le monde sache, toute la République, entre guillemets, en parle. Il y a eu des lettres qui ont été écrites, qui n'ont peut-être pas abouti, enfin, je veux dire... Il y a même une jeune femme qui avait eu un deuxième rendez-vous avec le médecin, et elle a refusé auprès de la secrétaire en disant non, pas avec lui. Et je veux dire, je crois que c'est vraiment de notoriété publique. Alors, il y a une espèce de silence qui couvre en fait cette espèce d'attitude qui est insoutenable. Et puis pour moi, bon, il y a une dose d'hypocrisie que j'ai énormément de peine à supporter. Et si je suis encore là, c'est parce que j'ai aucune raison de partir, puisque mon travail, je l'aimais et j'aime ce que je fais, et que les conditions sont intolérables, c'est une chose, mais que j'avais aucune raison de partir. Maintenant, j'en ai envie, ça c'est une autre chose, hein, parce que ça devient insupportable, et puis parce que il y a plus de travail aussi, hein, je veux dire, il y a des pressions au niveau de ce qui est du travail, et c'est-à-dire des restrictions. On n'a plus de... Moi, en tant qu'assistante sociale, j'ai plus de situations qui me viennent de la part des médecins.
Comme vous l'avez entendu, les plaignantes appellent toutes les femmes qui ont subi le harcèlement ou la présence de ce monsieur à venir témoigner. Donc, je vous rappelle, il s'agit du médecin conseil de l'État, chef donc du service médical du personnel de l'État, et que toute personne qui soit ayant travaillé avec lui, soit ayant subi un examen d'embauche peut s'en plaindre, qu'elle prenne contact avec le comité contre le harcèlement sexuel. Je vous rappelle aussi que la semaine dernière, une lettre signée par de nombreuses personnalités de Genève avait été envoyée à l'exécutif demandant que toute cette affaire soit clarifiée au plus vite et qu'une attention très particulière soit accordée à la parole des plaignantes. L'avocat du médecin, M. Alperin, a envoyé hier une lettre à toutes les rédactions des journaux genevois pour protester contre ce fait. M. Alperin souligne ainsi la pression exercée sur le Conseil d'État et je cite, il dit « Il n'est pas équitable de sanctionner même à moitié un innocent, pas plus qu'il ne serait supportable d'innocenter même partiellement un coupable. » Et de continuer, « En ne s'attribuant pas le droit de faire bénéficier d'une présomption de bonne foi à la partie plaignante, sous prétexte qu'elle est plaignante et que le délit dont elle se plaint est à la mode. » Et de s'étonner encore, et là je cite, que des hommes politiques, alors que la lettre a été signée par une grande majorité de femmes, que des hommes politiques, juristes, avocats, aient, je cite toujours, ainsi marqué au respect de la présomption d'innocence, les personnalités qui se sont ainsi érigées en défenseurs des droits de l'homme ont-elles à ce point pris le goût de la meute ? Fin de citation. Toujours sur le harcèlement sexuel, la France vient de se doter d'une loi sur le harcèlement sexuel que le Sénat vient d'adopter définitivement le jeudi 22 octobre. A signaler que le Parti Socialiste, le RPR et l'UDF ont voté pour ce texte, alors que le groupe communiste, lui, s'est abstenu. La France devient ainsi le premier pays de la communauté à se conformer aux recommandations de la Commission européenne et à bénéficier d'un dispositif juridique permettant à la fois de prévenir et de sanctionner le harcèlement sexuel dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, qui, on le voit bien à Genève, n'échappe pas à ce fléau. Le texte caractérise le harcèlement comme une pression exercée par l'employeur ou un supérieur hiérarchique afin d'obtenir des faveurs d'ordre sexuel. Il est interdit également toute sanction et tout licenciement d'un salarié ou d'une salariée plutôt qui aurait subi ou aurait refusé de subir des agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui abuserait de son autorité. Les associations pourront aussi se porter partie civile si elles obtiennent l'accord écrit de la personne intéressée. Le chef d'entreprise est tenu pour responsable de la prévention dans son établissement. En ex-Yougoslavie, le viol est devenu l'arme des Serbes dans la guerre civile. Dans le conflit yougoslave, le viol est une pratique courante au sein des trois factions. Les Serbes, par l'importance de leur conquête, font figure de principaux accusés et les musulmanes de principales victimes. Si un bilan précis est impossible à établir, des milliers de femmes seraient concernées. Dans toutes les guerres, les femmes sont les proies de choix pour les soldats, éloignées de leur famille pendant des mois et entraînées dans la logique de la loi du plus fort. Au vu de la barbarie de ce conflit, où 80% des victimes sont des civils, on peut s'inquiéter de l'ampleur des violences perpétrées contre les femmes. Les organisations internationales opérant sur place admettent que le viol est une pratique répandue, partagée par les trois factions, serbes, musulmans et croates. Personne ne dispose de chiffres précis, mais la plupart des enquêteurs retiennent l'estimation de plusieurs milliers de femmes, en majorité de musulmanes, piégées dans l'étau serbe. Les organisations humanitaires, débordées par le drame, n'ont guère le temps de s'apesantir sur les sévices réservés aux femmes et l'on perçoit même un certain découragement. Un représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies explique que, je cite, « tout cela paraît presque bénin comparé aux horreurs que nos délégués découvrent sur le terrain ». On se demande qu'est-ce qu'il a comme limite du bénin. En raison de leur écrasante supériorité militaire et de l'importance de leur conquête, plus des 70% du territoire bosniaque, les forces serbes sont là encore les principales accusées. de sources bosniaques et croates parlent même d'une pratique systématique de viol des femmes visant à terroriser les populations et à parachever le nettoyage ethnique. À Sarajevo et à Zagreb, des informations non vérifiables encore font état de dizaines de milliers de femmes violées. Un docteur, membre du service d'information du ministère croate de la Santé, reconnaît avoir eu personnellement connaissance d'une dizaine de cas de femmes violées et enceintes passées par les hôpitaux de Zagreb. Officiellement, Zagreb observe la plus grande discrétion sur ces affaires. D'abord, les Croates semblent considérer que ce problème est essentiellement du ressort des musulmans et qu'ils n'ont qu'à s'en débrouiller. Ensuite, ces affaires surviennent à un moment où le lobby catholique fait pression pour annuler la loi autorisant l'avortement assez librement avant 12 semaines et aurait même protesté contre les avortements pratiqués au-delà du terme légal sur des femmes violées. La commission des crimes de guerre du gouvernement bosniaque déclare qu'il y aurait 14 000 viols répétés, dont 2 000 sur des mineurs. À Zagreb, on parle dans la presse de 35 000 femmes violées. Responsable d'une association féministe, une femme avance les chiffres de 35 000 cas et de l'existence de 16 camps bordels en Bosnie. Au-delà des cas dûment répertoriés, comme les 21 dépositions nominales faites à Sarajevo à la Commission bosniaque des crimes de guerre par des femmes emprisonnées côté serbe, il est clair que de nombreuses victimes préfèrent se taire par honte ou peur d'être répudiées par leur famille et qu'on ne connaîtra sans doute jamais le nombre exact des victimes. Femmes contraintes de danser nues devant des soldats, petites filles violées devant leurs parents, femmes enlevées et livrées aux soldats. Parmi les folles rumeurs qui courent à Sarajevo, on raconte que des centaines de femmes détenues seraient violées et gardées jusqu'à ne plus pouvoir avorter et ainsi enfanter des combattants serbes. Aux États-Unis, ce sera donc Clinton qui deviendra le président des États-Unis. Pour les femmes, c'est en tout cas un espoir de victoire, en tout cas pour la question de l'avortement, puisque je vous rappelle que Clinton soutient inconditionnellement le droit à l'avortement et demande la signature immédiate d'une loi en bonne et due forme prévoyant la liberté d'avorter. Il demande également la suppression immédiate de l'ordonnance sur l'interdiction dans les cliniques publiques et propose d'inclure l'avortement dans les options offertes à une femme enceinte, alors que Bush, sur la même question, était et est toujours pour un amendement constitutionnel qui interdirait l'avortement, sauf en cas de viol et d'inceste. Il est contre également la diffusion d'informations sur l'avortement dans les cliniques financées par les fonds publics et il est contre les expérimentations à usage médical sur les fœtus avortés. Il est contre également la pilule abortive, le RU486. En ce qui concerne le sida et la problématique du sida, Clinton a promis l'accroissement du financement de la lutte contre le sida. Il y a également une interdiction qui serait faite aux compagnies d'assurance qui refuserait la couverture à une personne séropositive, ainsi que l'interdiction d'entrer sur le territoire américain des séropositifs qui serait levée. Bush, lui, était favorable au maintien de cette interdiction des visas aux malades du sida et aux séropositifs. À Genève, un nouveau mouvement politique parti vient de naître. Il s'agit de Solidarité qui regroupe un large éventail des forces de gauche, syndicalistes, ex-Parti socialiste ouvrier, certains membres du Parti du Travail et du Parti écologiste et du PS, ainsi que des mouvements comme Contratome, etc. Ce parti laissera-t-il une place aux femmes? Nous avons posé la question à une des signataires de l'appel pour la formation de ce parti. Voici sa réponse.
Non, la question femmes en tant que telle n'a pas du tout été adressée. Moi, je trouve qu'elle est très importante, évidemment. Et pour le moment, pour moi, je trouve que Solidarité se donne comme groupement politique, un peu comme ceux qui ont déjà existé jusqu'à présent. Alors, effectivement, il faut adresser la question. Ça n'a pas été fait. J'ai entendu qu'il serait question d'une commission femme ou un regroupement qui, à l'intérieur de Solidarité, qui parle de, qui pose les problèmes femmes, qui serait ouvert aux hommes aussi, mais disons, je l'ai entendu comme ça en discutant avec une autre membre qui était à l'Assemblée constitutive. Donc, ce n'est pas du tout officiel ce que je dis.
Mais est-ce que au moment où les contacts ont été pris pour créer déjà pour annonce, pour faire cet appel, est-ce que il y a des personnes qui ont été contactées en tant que féministes?
Bon, pas non plus directement en tant que féministe, mais c'est clair que moi, je milite dans un milieu féministe. Je suis du mouvement syndical. Je représente ma section au comité de l'USCG, pas en tant que commission femme, mais en tant que membre de en tant que section. Mais en même temps, je suis aussi... membre de la commission nationale femmes VPOD, où je représente ma section de VPOD. J'ai été approchée par une femme qui est aussi membre de la commission femmes VPOD Genève. Tu vois, c'est quand même un milieu de femmes concernées. Je fais partie du collectif 14 juin. Alors, c'est clair qu'on m'a approchée pour cela, mais en même temps, je dois dire que j'ai aussi milité pendant 20 ans au mouvement anti-apartheid, et je pense qu'on aurait aussi pu m'approcher pour ceci, parce que là, pour moi, est encore la question, si on veut faire cette nouvelle organisation, est-ce qu'elle devra fonctionner comme ce qui a fonctionné jusqu'à présent, en tant que parti ou mouvement ou groupe? Ça, à mon avis, n'a pas encore été vraiment discuté à l'intérieur de Solidarité, à moins que d'autres membres fondateurs l'aient fait.
Mais est-ce que tu penses qu'il y aura une volonté, par exemple, comme il y a eu dans certains partis ou groupes suisse-allemands, qu'il y ait une parité d'hommes et des femmes dans les instances dirigeantes ?
Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont je n'ai pas du tout entendu parler à l'intérieur de Solidarité, à l'intérieur ou parmi les gens comme moi sont membres fondateurs.
Et nous terminons ces nouvelles avec l'Europe au féminin. Les syndicats romands considèrent que l'Europe est une chance à saisir pour et par les femmes. Pour les syndicats de la Suisse romande font remarquer que dans la communauté européenne, les problèmes liés au principe de l'égalité de traitement ne sont pas marginaux. Ils sont au contraire au cœur même des préoccupations. Le traité de l'espace économique européen et sur lequel on votera le 6 décembre en Suisse reprend les deux principes fondamentaux du droit communautaire, c'est-à-dire l'égalité de rémunération mais également l'égalité de traitement. Cela signifie que le travail des femmes employées à d'autres tâches que les hommes doit se voir attribuer une valeur égale s'il y a équivalence, par exemple, entre la capacité, l'effort à fournir ou l'aptitude à prendre des décisions. Les directives de la communauté européenne relatives à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement concernent l'accès à l'emploi, mais également la formation, la promotion professionnelle, et elles ont trait également aux conditions de travail. Cependant, ce principe de l'égalité ne s'oppose toutefois pas à la protection des femmes en cas de maternité, par exemple. Pour Christiane Brunner, syndicaliste et présidente de la FNAMH, la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, l'EE représente un défi pour les femmes. En effet, dit-elle, dès 1993, les femmes vont être confrontées à ce défi d'envergure, mais l'avènement du grand marché de l'EE sera aussi porteur d'opportunités. Dans ce grand mouvement, les femmes sont dans une position a priori défavorable. Leur faible qualification, la précarité croissante des emplois nouvellement créés, leur moindre mobilité, l'insuffisance des services de garde d'enfance ont tant d'handicaps de départ. Pourtant, le grand marché du travail connaîtra des tensions en raison de la baisse de natalité. D'où la demande en main-d'œuvre qualifiée augmentera. Dans ce contexte, la contribution des femmes sera décisive. Elles constituent une réserve de qualifications potentielles qui seront indispensables au développement économique et social de l'Europe. Ce potentiel est aujourd'hui ignoré, sous-utilisé. Il appartiendra à cette nouvelle institution européenne que sera l'EE de redécouvrir et d'exploiter cette richesse, signée Christiane Brunner. Et avec cela, nous terminons nos nouvelles. C'était Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone.
Pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel des Antilles. Bien vite lui rendait les âmes, mais quand ils repartaient sur l'eau, leurs larmes allaient grossir les flots. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Mais un jour le matelot fut tué d'un coup de couteau. Ensuite j'ai oublié les mots, mais la fin, je m'en souviens. Aussitôt qu'ils sont amoureux, tous les hommes sont des matelots. Dans leurs yeux dansent des vagues bleues. Ma mère chantait toujours. Une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu la chanteras à ton tour en souvenir.